Des choses dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui où les ventes de médicaments explosent, les ventes de tranquillisants explosent, les gens ont peur, les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver le lendemain, les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas non plus ce qui va arriver après la mort. Et ici, c'est intéressant, l'ange leur dit aux bergers, n'ayez pas peur, ne craignez point. N'ayez pas peur et ne craignez point. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'ange a exhorté les bergers à ne pas avoir peur. Tout d'abord, je pense qu'il est tout à fait normal pour les bergers d'avoir été terrifiés lorsqu'ils ont vu les anges leur apparaître et ont dit la gloire de Dieu resplendir autour d'eux, c'est-à-dire une lumière éblouissante, une lumière aveuglante qui a éclairé et finalement. On est dans les champs, hein? On n'est pas dans les Champs-Élysées, là, on est dans les champs où les bergers font paître leurs troupeaux et il fait sombre, il n'y a pas de lampadaire. Et là, à un moment donné, c'est comme un éclair, quoi. La gloire de Dieu, elle resplendit dans les champs. Et les bergers savaient que les anges étaient des êtres supérieurs et ça devait être extrêmement impressionnant. Les bergers savaient aussi ce qu'était la peur. Comme Ernest l'a dit, c'est vrai que c'était des gens qui étaient peu fréquentables, des gens qui étaient considérés comme appartenant à la dernière des classes, des gens qu'on ne devait pas fréquenter. Mais ces gens-là aussi vivaient continuellement dans la peur. D'abord, il leur arrivait assez régulièrement de rencontrer des ours. David nous dit que quand il était berger, il a déjà dû aussi se débarrasser d'un lion. Mais aussi, il y avait des voleurs qui circulaient dans les champs. Et aussi, il y avait les Romains qui leur causaient souvent des pépins, qui les harcelaient continuellement. Et les Romains, pouvaient décider qui avait le droit de vivre et de mourir. Et dans les champs, personne ne s'inquiétait trop qui vivait et qui mourait. Mais surtout, comme tous les êtres humains, les gens avaient peur de la mort. Et moi, je vais te dire honnêtement, je m'étais jamais posé la question où j'allais passer l'éternité. À 33 ans, quand j'ai rencontré un vrai chrétien qui m'a dit, écoute, un jour tu vas mourir et tu vas devoir rencontrer Dieu. C'est vrai qu'en tant que, avec mon arrière-plan religieux, je savais que Dieu existait. Pour moi, c'était quelque chose de naturel quand je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi. Simplement la machine, la merveille qu'on est. Je me disais, je savais que je croyais en Dieu, mais Jésus pour moi c'était pas une réalité, c'était pas une personne pour moi, c'était un nom. C'était un nom. Le nom de Jésus, c'était un nom. Donc c'était pas quelque chose qui pouvait avec qui je pouvais avoir une relation avec lui et ainsi de suite. Et finalement quand il m'a vraiment confronté à la mort pour la première fois, pas nécessairement à la mort, mais à l'éternité. Quand il m'a fait comprendre que j'étais différent d'une vache, d'un cheval. Et que si la vache et le cheval, la seule espérance qu'ils ont, c'est d'être enterrés et de pourrir, l'être humain, Dieu a donné un esprit à l'être humain. Et la Bible est claire. L'esprit, quand il meurt, il retourne à son Créateur. Et là, je me suis posé des questions et j'ai commencé à trembler parce que je réalisais pour la première fois de ma vie, à 33 ans, que je ne savais pas si je mourrais aujourd'hui, je ne savais pas où je passerais l'éternité. Et je lui ai demandé où je peux trouver la réponse. Il m'a dit, va t'acheter une Bible, lis l'Évangile de Jean. Et finalement, j'ai fait une démarche et ça a pris 4-5 mois, je ne me souviens plus, mais 4-5 mois où j'ai eu ma réponse et ça a complètement bouleversé ma vie. Jésus n'est plus devenu simplement un nom pour moi, mais il est devenu une réalité. Et j'espère que pour vous aujourd'hui, c'est la même chose, que Jésus, ce n'est pas seulement un nom raccroché à une religion quelconque dans le monde, mais que c'est vraiment non seulement quelqu'un qui est mort pour vos péchés, mais aussi quelqu'un qui a été ramené de la mort à la vie. Et ça, c'est la promesse que les Évangiles nous font. Et ça, il n'y a personne dans le monde qui peut nous donner cette promesse-là. Il n'y a aucune religion qui peut nous confirmer que quelqu'un peut revenir de la mort à la vie. Après, on dit toujours, espère, fais des bonnes choses, espère que tu vas revenir peut-être un jour sous la forme d'une fleur, sous la forme d'un caillou, hein? La réincarnation et tout le reste. Mais le Seigneur Jésus, il a non seulement prêché qu'on revient à la vie, mais il est aussi revenu à la vie. Et des 500 personnes, à l'époque de Paul, 500 personnes, certains étaient déjà morts, mais des témoins oculaires l'ont vu après sa mort. Et ce n'est pas un fantôme qu'ils ont vu, parce que Jésus s'est présenté à ces gens avec les mains percées, les pieds percés, et c'était le même Jésus qui avait été crucifié, mais dans un autre corps. Ce corps qu'il nous promet à chacun d'entre nous. Ah, c'est magnifique, magnifique. Et on a peur de la mort, hein? On a peur de la mort. Ben oui, les gens boivent parce qu'ils veulent oublier leurs soucis. Et quand ils ont fini de boire, les soucis sont toujours là. Les gens se droguent. Hein? On dit bien l'enfer de la drogue, et c'est vraiment ça, l'enfer de la drogue. Hein? Oui, oui, c'est vraiment l'enfer de la drogue. Et Jésus, contrairement à tous ces marchands de malheur qui tournent autour de nous, c'est pas l'enfer qui nous promet, c'est le paradis, parce que l'enfer, il l'a supporté pour nous. C'est ça le message de Noël. nous étions perdus et Dieu a envoyé quelqu'un pour nous sauver. Et on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer tellement qu'on est occupé à amasser. À amasser. Et l'amour de Dieu, c'est quand vous regardez une croix vide, c'est là que vous voyez l'amour de Dieu. Et Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime pour nous aimer. Il nous a toujours aimés. C'est un beau message. C'est un message qui est vivant. C'est un message qui est excitant. Ça a changé ma vie. Et ceux qui l'ont rencontré personnellement peuvent dire que ça a bouleversé leur vie. Quand les mages ont vu les anges, ça a bouleversé leur vie. C'était des envoyés de Dieu. Et moi, en méditant ce message, je me suis dit, mais pourquoi il est allé voir des bergers? C'est une très bonne raison, ce que notre frère Ernest a dit. C'est une des raisons. Et moi, je n'en ferai pas un dogme. Mais vous savez, quand Marie a eu son bébé, là, hein, c'est un petit agneau. Hein, c'est comme un petit agneau qu'elle a reçu. Hein. Et ce petit agneau, il était pour devenir, ce que Jean-Baptiste dit, l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde un jour. Voilà. Et on n'a pas tout le texte. Hein, je suis convaincu que les anges n'ont pas seulement... Ce ne sont pas limités seulement à 30 secondes avec les bergers. On n'a pas tout le texte. On a le texte qui est important pour nous. C'est pour ça que je vous dis que ce que je vous dis, prenez pas ça comme un dogme, mais je suis convaincu qu'on bordait l'idée de l'agneau. Parce que c'était un domaine où les bergers connaissent, que les bergers connaissaient très bien. Et Dieu nous connaît très bien. Il sait que dans quel domaine il doit nous aborder. Et deuxièmement, bien, le sauveur... Pardon... Les bergers n'avaient pas peur de la mort, mais le sauveur qui venait de naître ce jour-là était celui qui chasserait la peur dans nos cœurs. Et ce miracle, la nouvelle naissance qui se passe dans nos cœurs, chers amis, c'est que tu n'as pas peur de la mort parce que Paul dit que Christ a vaincu la mort à notre place. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que le chrétien, entre guillemets, comme Paul dit, il s'endort pour être un jour ramené de la mort à la vie dans un nouveau corps où il va passer l'éternité sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que Dieu va un jour mettre en place. Et frères et sœurs, quand on voit les événements, hein, on voit que l'homme, même s'il est païen, même s'il ne veut rien savoir de Dieu, il est en train d'accomplir le plan parfait de Dieu. On le voit devant nos yeux. Ça fait 2000 ans, plus de 3000 ans que ça a été confirmé. Ça fait 2-3000 ans que ça a été prophétiser dans les Écritures. Et l'homme, peu importe ses ambitions personnelles, il est en train d'accomplir parfaitement ce que Dieu a prévu depuis toujours. On a juste à regarder ce qui se passe en Israël et autour d'Israël. On est peut-être la génération qui va voir revenir Jésus-Christ vivant, régler ses comptes avec l'humanité, venez chercher ceux qui l'ont rencontré, venez chercher ceux qui lui appartiennent, qui s'appliquent à vivre comme il demande. Ce qui est triste, c'est que la Bible, elle est claire aussi. C'est que certains qui ont confessé le nom de Jésus un jour abandonneront leur foi dans les derniers temps. Et on assiste à ça aussi. Et c'est vrai que l'Église n'est pas un modèle pour les gens du monde. L'Église, à différents endroits, elle est un scandale pour les gens du monde. Mais si l'Église est un scandale, lui n'a jamais scandalisé personne. Si l'Église n'est pas le modèle que Jésus a laissé quand il est parti de la terre, lui, il est le modèle parfait. Ce n'est pas sur l'Église qu'on doit garder nos yeux, c'est sur le modèle, celui qui est le chef. C'est à l'Église à se remettre en question. Et Noël, c'est l'occasion aussi pour les chrétiens, pas juste pour les non-chrétiens, mais pour les chrétiens de se remettre en question. Amen. Ah, vous êtes toujours là. Ah, frères et sœurs, je m'adresse aux chrétiens maintenant. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, à travers son Église, joue sa réputation à travers ceux qui se disent chrétiens. Si vous ne vivez pas la vie que Dieu vous demande de vivre en Jésus-Christ, taisez-vous, ne dites à personne que vous êtes chrétien parce qu'il va y avoir un prix très élevé pour vous allez avoir un prix élevé à payer. Ne dites jamais à personne que vous êtes chrétien. Il a donné sa vie pour que vous puissiez porter le nom de chrétien. Il a donné sa vie pour faire un miracle dans votre vie. Celui de faire passer de la mort spirituelle à la nouvelle vie spirituelle. Et frères et sœurs, Dieu a payé un prix tellement élevé, qu'il n'acceptera jamais que quelqu'un qui se dise chrétien se moque du nom de Jésus-Christ. Jamais. Jamais, jamais. On a une lourde responsabilité, non seulement quand on fait un pas de foi, il ne faut pas le faire à l'aveuglette, mais on a une lourde responsabilité ici de marcher par la foi, parce que tôt ou tard, on va tous comparaître devant Dieu. Les uns vont aller directement dans le royaume de Dieu, Et les autres qui auront vécu sans Dieu, eh bien, on n'aime pas dire ce mot-là, mais il y a un jugement qui vient sur leurs épaules. Et le Seigneur, il nous permet de choisir dans notre libre arbitre soit le ciel, soit l'enfer pour l'éternité. Et l'Église a une grande responsabilité aujourd'hui parce que l'Église a sorti de son vocabulaire le mot enfer, parce que l'Église a sorti de son vocabulaire le mot péché, et parce que l'Église ne parle plus du retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si moi je crois en tant que chrétien, si ma joie est encore là malgré les épreuves que j'ai vécues, malgré les épreuves que je vis, c'est que je crois en la résurrection des morts. Amen.
Amen.
Je crois en la résurrection des morts.
Amen.
Actes chapitre 3, les chrétiens n'étaient, les apôtres n'étaient pas persécutés parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ crucifié. Ils étaient menacés de ne plus dire que Jésus-Christ était ressuscité. Allez dire aux gens qu'il y a une vie après la mort. Allez dire aux gens que vous croyez en cela. On vit dans un monde aujourd'hui, on va vous traiter de tata. On va vous dire que vous avez besoin d'aller voir des gens, vous faire soigner. Mais le christianisme, pas la religion, mais la relation avec Dieu, c'est le seul enseignement qui vous confirme qu'il y a une vie après la mort. Alors, c'est ce qui est merveilleux. Le vrai christianisme, ce n'est pas une question de religion. Pour ceux qui ne sont pas habitués à entendre le message, c'est une question de relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Et le miracle qu'il fait à travers la nouvelle naissance, c'est qu'il vient habiter en chacun de nous par son esprit. Et là, c'est extraordinaire, les bouleversements qui se passent dans nos vies. À tel point que quand je regarde ce que j'ai fait avant mes 34 ans, je me dis comment j'ai pu faire ça alors que je prenais plaisir là-dedans. Avant, le péché, c'était comme une friandise qui m'attirait, je trouvais ça bon. Aujourd'hui, je réalise que c'est un poison mortel qui ne cherche qu'à me tuer, quoi. Ouais. Ah ouais. Et Jésus a vaincu le péché sur la croix. Jésus a vaincu la puissance que le monde exerçait dans nos vies, la puissance que le diable exerçait dans nos vies et la puissance que le monde exerçait dans nos vies. Hey, c'est extraordinaire, ça! Hein, t'as l'impression de voler, quoi, hein? Faut pas se lancer en bon indième étage, on a l'impression de voler. Mais on a l'impression, mais on est léger. On est léger. J'ai pas peur de mourir. Je sais où je m'en vais. Je sais qu'un jour, je vais être amené de la mort à la vie. C'est extraordinaire, ça, non? Oh, y a les chrétiens, ils sont les chrétiens aujourd'hui. Amen! Oui, oui, c'est un beau message. Et la naissance de Jésus, verset 10 ici, « Elle apporte une grande joie. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et ça devrait être le sujet d'une grande joie pour vous cet après-midi. Le Sauveur, vous étiez perdus, Dieu vous sauve. Regardez dans Marc ce qui est écrit. Bon, je ne prends pas le français courant comme étude, là, pour comme Bible d'étude. Mais je trouve que c'est clair ce qu'il dit. Ici, chapitre 1, verset 1. Ici commence la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ. Ici commence la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ. Avant, c'était une mauvaise nouvelle. Personne ne pouvait être sauvé par les sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien. Ici commence la bonne nouvelle qui concerne la personne de Jésus-Christ. L'Évangile, ça concerne la personne de Jésus-Christ. L'Évangile, ça concerne pas faire des œuvres pour être sauvé, mais parce que tu es sauvé, tu fais des œuvres pour confirmer que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Hey, c'est une bonne nouvelle, non? Vous saviez pas où vous allez, maintenant vous le savez. Pourquoi? Parce que Dieu a eu pitié de vous. Parce que Dieu a eu pitié de moi. Il n'était pas obligé de se révéler, de nous parler. Il le fait. Merveilleux. Extraordinaire. Exercer le métier de berger était un des métiers les plus solitaires qui soit au Moyen-Orient. Ce travail les empêchait de participer avec, je dirais, aux nombreux rassemblements et nombreuses activités sociales qui avaient lieu dans la région parce qu'ils devaient surveiller leurs troupeaux. Ils étaient isolés. Et lorsque, frères et sœurs, nous regardons à la tristesse qui envahit ce monde avec tout ce que cela peut comporter, il est bien difficile de rester joyeux. D'une seconde à l'autre, votre joie peut être transportée en chagrin et votre gaieté en consternation. Vous avez peut-être perdu votre joie cet après-midi. Le chagrin s'est peut-être abattu sur vous cet après-midi et rien ne peut empêcher vos larmes de couler sur votre visage. Si c'est votre cas, écoutez le message que Jésus a pour vous. Ésaïe chapitre 61. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres, désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Mais j'ai une mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. Ah, magnifique! Il y a des témoignages ici. Je pense qu'il est encore ici aujourd'hui. Quelqu'un qui était foncièrement, constamment déprimé, porté à faire des dépressions. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Le Seigneur lui a apporté sa joie, la joie dans son cœur. Il n'a plus besoin de médicaments. Il a la joie du Seigneur sur son visage. C'est inexplicable. La nouvelle naissance, c'est un miracle. On ne peut pas expliquer un miracle. Mais Dieu change nos cœurs et c'est une joie extraordinaire qui vient porter dans nos cœurs. La joie du Seigneur est la vôtre à partir du moment où vous lui permettez de vous la transmettre. Il est donc important que vous puissiez déposer à ses pieds ce vêtement d'affliction afin qu'il puisse vous couvrir du manteau de sa joie. Néhémie chapitre 8, verset 10. « Ne soyez pas dans la tristesse, car la joie du Seigneur sera votre force. » Hey, c'est une promesse, ça! Oh, magnifique! Quel message réconfortant pour un pauvre berger que cette parole rassurante qui sort de la bouche de l'ange que la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ n'est pas seulement pour les riches et les gens les plus considérés de ce monde, mais que ce message incluait les moins bien nantis et les moins bien considérés de la société, comme c'était le cas pour les bergers. Ce genre de message détruit les murs de discrimination qui séparaient les gens. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été miraculeusement déchiré. Et cela illustre bien que l'accès à Dieu était maintenant rendu accessible à tous les peuples. Dieu venait d'étendre sa grâce à tous les hommes et à toutes les femmes du monde qui croiraient en son Fils Jésus-Christ. Le pardon devenait accessible à tous à travers le sang de Jésus, celui qui est l'agneau de Dieu. Il n'importe donc plus que qu'on soit juif ou non-juif, esclave ou libre, homme ou femme, nous sommes tous un dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le premier homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, le péché a rompu la relation étroite que l'homme avait avec Dieu. L'homme, on sait que la Bible nous dit que l'homme et la femme furent chassés du paradis. Le Seigneur a placé des chérubins à la porte du paradis pour pas que l'homme revienne dans le paradis. Mais voilà, Jésus est venu rétablir cette relation privilégiée que l'homme avait perdue avec son Créateur en payant de sa propre vie le prix exigé par la loi pour nous racheter. De plus, il est aussi ressuscité. C'est ça qui est important. Et vous savez pourquoi que dans Acte 3, on empêchait les apôtres de prêcher que Jésus était ressuscité. Moi, je peux vous prêcher pendant 50 ans que Christ est mort pour nos péchés. Je peux me limiter à ça. Hein? Mais qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, ça? Ça va changer absolument rien hein, s'il n'est pas ressuscité. Hein? Ah oui, hein? Qu'est-ce que ça va changer? Ce qui est important, c'est que je vous dise qu'il est d'abord mort pour vos péchés, que vos péchés sont effacés. Ça, c'est important. Que vous êtes réconcilié avec Dieu. Mais comment je peux vous faire, comment je peux vous amener à penser, à croire et à vous convaincre que Dieu a accepté ce que Jésus a fait pour vous? C'est par la résurrection des morts. Sinon, Jésus serait toujours sur la croix. Jésus serait toujours sur la croix. Il y aurait toujours son squelette qui serait étendu sur la croix. Mais la croix est vide. Et la croix, quand elle est vide, c'est un signe de victoire pour nous. Jésus-Christ est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Amen! La naissance de Jésus exprime la touche personnelle de Dieu, verset 11. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. » Et on l'a vu tantôt, Ernest en a parlé dans sa prière, je pense. Il y a un nom qui est donné à Jésus, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Et dans l'Ancien Testament, si Dieu parlait à travers ses prophètes, dans le Nouveau Testament, il nous parle à travers Jésus-Christ. Dieu ne pouvait pas nous démontrer de manière plus évidente jusqu'à quel point il nous aimait lorsque le Fils de Dieu est devenu un homme pour permettre à l'homme de devenir un enfant de Dieu. La Bible, c'est un magnifique verset, ça. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé Jean Cudon. Dieu a tellement aimé Daniel Finet. Dieu a tellement aimé Paolo Vasta qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Afin que si Jean Cudon croit en lui, eh bien, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le fait de ne pas périr démontre qu'il y a une vie après la mort. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Magnifique! Magnifique que Dieu n'ait pas entendu qu'on se tourne vers lui pour nous sauver. Et merveilleux, encore une fois, que le salut soit gratuit. Je le dis souvent durant l'année, essayez d'évaluer si Dieu avait osé mettre un prix pour qu'on puisse avoir accès à son salut, il n'y a personne qui aurait les moyens de se le payer. Personne. Ni le plus riche de la terre, personne n'aurait les moyens de se payer ce salut. Et vous savez, quand on paye, on donne son propre fils pour le salut de l'humanité, ça vous donne une idée de la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Si pour les gens, vous êtes des minables, des fainéants, des moins que rien, pour Dieu, vous êtes quelqu'un de précieux. Vous êtes quelqu'un de précieux. C'est ça qui est magnifique. Quand on a été démonis, dépendant des parents qu'on a eus, dépendant des fréquentations qu'on a eues, quand on a été rabaissé toute notre vie, quand on a été démonis toute notre vie, et puis qu'on lit les évangiles et on voit jusqu'à quel point Dieu veut nous élever, jusqu'à quel point Dieu nous apprécie, à quel point Dieu nous aime, à quel point on a une valeur pour le Seigneur, et que Dieu ne cherche jamais à nous abaisser. Il nous demande à nous abaisser parce qu'il veut toujours être au-dessus de nous. Mais jamais Dieu va venir nous écraser, jamais, jamais. Il ne nous a pas sauvés pour nous détruire. Absolument pas. Et ce qui est merveilleux avec le message de l'Évangile, non seulement Dieu veut nous sauver, mais Dieu veut qu'on habite dans son royaume pour l'éternité. Et plus que ça, non seulement il a fait de vous vos enfants, mais il a fait aussi de vous vos héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Dieu a tout donné à Jésus. Ça veut dire que tout ce que Dieu a donné à Jésus, c'est on y a droit. C'est pas un bon message, ça. Hein? C'est pas mon message, hein? C'est le message biblique, quoi. Hein? Car à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit, le privilège de devenir les enfants de Dieu. Ouais. On est tous nés d'en bas, hein? Et celui qui naît une seule fois, il va mourir deux fois. Celui qui va mourir deux fois, Oui, celui qui doit naître deux fois va mourir une seule fois. On vient au monde une fois, on est né d'en bas, un homme et une femme. On doit naître d'en haut, du Saint-Esprit et de la parole, pour éviter de mourir deux fois, c'est-à-dire au jugement dernier. Et ça, c'est la nouvelle naissance. C'est magnifique. C'est magnifique. Rapidement, le verset 14. La naissance de Jésus manifeste la gloire de Dieu dans les lieux très hauts. N'est-ce pas la meilleure façon pour Dieu de manifester sa gloire envers des gens qui étaient indignes de recevoir quoi que ce soit de lui? Frères et sœurs, si les bergers à leur époque étaient considérés comme des gens indignes, on n'était pas plus dignes qu'eux. Au lieu de la loi de Dieu, on n'est pas plus dignes qu'eux. On est tous des indignes. Et je trouve ça magnifique que Dieu se soit baissé à notre niveau en se faisant homme dans la personne de Jésus-Christ. Pour venir nous annoncer un message de délivrance extraordinaire. Et ça, c'est le message de Noël. Mais on ne doit pas se contenter de l'entendre une fois par année. On doit aussi aller en parler aux gens. Les gens ont besoin. Vous ne pouvez pas savoir la soif spirituelle qu'il y a à l'extérieur. Les gens ont besoin d'entendre ce message qui délivre. On doit prier que le Seigneur nous ouvre la bouche pour qu'on puisse partager ce message. Et vous savez, le message de l'Évangile n'est pas compliqué. On n'a pas besoin de suivre des cours. On n'a pas besoin d'apprendre des méthodes. Dans Luc, chapitre 9, il est clair, quand il y en a un qui est délivré de plusieurs démons par Jésus-Christ et qui veut suivre Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Va dans ta ville et va annoncer les miracles que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est ça l'évangélisation. Hein? Va annoncer les miracles que Dieu a fait dans ta vie. Va leur raconter. Hein? Et la Samaritaine au puits, c'est la même chose. Hein? Elle est partie, elle t'a annoncé. J'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé le Sauveur. Ouais. Elle n'a pas eu le temps de faire la faculté, hein? Elle n'a pas eu le temps de faire l'Institut biblique. Hein? Elle a juste eu le temps de rencontrer celui qui bouleversait nos vies. Et on doit prendre le temps chaque jour, frères et sœurs, de rencontrer celui qui a bouleversé nos vies. Il veut toujours nous parler dans sa parole. Ouais. Et Noël ne doit pas être un temps seulement pour qu'on s'arrête, pour entendre parler le Seigneur Jésus dans nos cœurs, mais c'est jour après jour. Il est notre force. Amen. Voici ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 et 11. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et en terminant, la naissance de Jésus apporte la paix aux hommes qui bénéficient de sa faveur. Verset 14, et la paix est paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ouais. La paix de Dieu, elle vient dans la vie des gens qui vivent comme Dieu le demande. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la vie juste que Dieu demande, et tout le reste vous sera accordé. Il y a des gens qui sont rendus, ils ont 2 emplois, 3 emplois, ils ne réussissent pas, ils sont toujours stressés. Ils ne sont pas stressés de s'accaparer d'autres choses, ils sont stressés maintenant, ils ont tellement de biens qu'ils sont stressés de perdre ce qu'ils ont déjà ramassé. Ils perdent un cancer du jour au lendemain, et 20 ans de leur vie vient de s'écrouler. Et là, ils sont obligés de tout vendre parce que la mutuelle ne couvre pas nécessairement tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. J'ai appris ça en Belgique ici, moi. Hein? C'est un beau slogan, je trouve. On n'a jamais vu un corbillard traîner un coffre-fort. Je trouve ça magnifique, moi. Moi, je trouve ça, c'est beau. Pour un Québécois, c'est magnifique. Hein? On en a d'autres, nous, mais je ne dirais pas les nôtres, mais j'ai trouvé ça magnifique. C'est une révélation pour moi. Et il y a combien de gens qui travaillent en pensant qu'ils vont passer l'éternité sur la terre, comme s'ils ne mourraient jamais. Ils préparent leur succession, ils laissent beaucoup de choses à leurs enfants. Et là, c'est la bagarre dans les familles. Et là, les enfants qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais transpiré pour ramasser ce que les parents ont, ils partent en vacances, ils se payent des belles choses et ils dilapident les biens. J'ai des histoires comme ça, quoi. Heureusement que les parents sont morts. Heureusement que les parents sont morts pour pouvoir voir ces choses. La naissance de Jésus apporte la paix aux hommes qui bénéficient de sa faveur. Et à travers la mort de Jésus sur la croix, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer mon message. Je ne fais pas un appel, mais simplement vous interpeller. Quand on regarde la croix, hein, c'est pas dur de dire, écoute, moi, je veux avoir le pardon de mes péchés. Hein. Moi, je voudrais être sauvé. Hein. Moi, je voudrais avoir l'assurance de la vie éternelle. Hein. Moi, je voudrais être certain que quand je vais comparaître devant Dieu en mourant, Dieu va me recevoir. Le problème, hein, c'est que c'est à vous à prendre la décision. Dieu a déjà pris la décision de vous sauver. Maintenant, c'est à vous à prendre la décision. Et je vais simplement donner un avertissement, même à Noël. Plus vous entendez l'Évangile, plus vous résistez à l'Évangile. Et à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui va finir par endurcir vos cœurs. Parce que Dieu a des limites à se faire insulter. Vous entendez l'Évangile depuis... Il y a des gens qui entendent l'Évangile depuis 50 ans, qui n'ont pas encore pris une décision. Alors qu'en Afrique et dans d'autres pays, il y en a qui n'ont jamais, jamais entendu l'Évangile et qui meurent sans Christ. Ouais. Je ne veux pas vous faire peur. Je suis en train de vous mettre face à vos responsabilités. Dieu a pris ses responsabilités. Il n'était pas obligé. Et Dieu ne vous oblige pas non plus. Mais vous ne pourrez jamais reprocher à Dieu de vous pousser du revers de la main et dire, « Toi, tu ne m'appartiens pas. Loin de moi, toi qui commets l'iniquité. Loin de moi, toi qui m'insultes. » Et ce petit Jésus, c'est vrai que tout le monde l'aime bien, ce petit Jésus. Qui n'aimerait pas un bébé, hein? Oui, oui. Mais quand le bébé commence à ouvrir la bouche, hein? Oh! Hein? Ah! Quand il a commencé à ouvrir la bouche, les gens, « Oh, on l'aimait mieux bébé, hein? C'est vrai. Hein? » Moi, le mien, je l'aimais beaucoup avant 2 ans. Hein? Ah ouais, mon petit-fils, là. Maintenant, au-delà de 2 ans, oh, commence à transpirer un peu plus le péché, là. Hein? Ah ouais. Continue à mordre de temps en temps, mais ça va, là. Ah ouais. Et là, il manifeste son caractère, hein? Le caractère du premier Adam. Et même si j'aime beaucoup mon petit-fils, même s'il m'aime beaucoup, il va devoir lui aussi passer par la nouvelle naissance. Et ça, c'est la responsabilité des parents de l'enseigner dans les voies de Dieu. Amen. Et moi, ma responsabilité en avant, c'est pas tellement d'être trouvé agréable à vos yeux, c'est pas tellement de me faire aimer. La Bible a dit dans Galates chapitre 1, verset 10, « Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. » Et je sais qu'un jour, quand je vais mourir, c'est pas devant vous que je vais comparaître, c'est devant Dieu que je vais comparaître, et je vais devoir répondre de moi ce que je vous ai enseigné. Et vous, aurez à répondre de ce que vous avez fait avec ce qui vous a été enseigné. Alors moi, j'ai fait mon devoir, J'ai fait ce que je vous ai transmis le message que Dieu avait placé sur mon cœur. Alors, si vous n'avez vraiment pas aimé, ayez l'honnêteté de venir me trouver. Je n'ai vraiment pas aimé ce que tu as dit. Et je vais vous demander pardon. Hein? Coûte rien, pardon. Hein? Une petite dose d'orgueil, quoi. Hein? Et je vais prier pour vous, en plus. Dieu va me donner la force en Jésus-Christ de prier pour vous, pour que la prochaine fois, vous voyez quelque chose de différent dans le message de l'Évangile. Ouais. Et si vous avez aimé, gardez ça pour vous, pour pas que j'aille la tête comme ça quand je sors de l'église. Gardez-le pour vous. Gardez ça pour vous. Voilà. Mais je loue le Seigneur qu'on soit un si grand nombre aujourd'hui. Je loue le Seigneur qu'on soit dans un pays où on peut encore proclamer l'Évangile dans nos églises. Dehors, c'est différent, mais dans nos églises. Et que vous ayez reçu ce privilège non seulement d'entendre l'Évangile, mais de prendre une décision pour l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est la puissance dont Dieu se sert pour convaincre quiconque. Quiconque. De péché, de justice et de jugement. Hey. Ah, c'est magnifique. Amen.